RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous l'entendez, à quelques jours du premier tour des élections législatives en France, on s'intéresse ce matin à la participation citoyenne des personnes en situation de pauvreté, à leur implication et à leur intérêt pour la vie politique et bien sûr à ce qu'elles attendent des responsables politiques. Nous allons écouter la voix de personnes qui connaissent elles-mêmes la pauvreté. Nous sommes toujours avec Marie-Alette Grard, la présidente d'ATD Quart-Monde, et Daniel Massiel, diacre du diocèse de Lille et cofondateur de l'association Participation et Fraternité.
Et nous allons donc, vous l'avez dit Melchior, accueillir à l'antenne des personnes qui font ou qui ont fait l'expérience de la pauvreté, qui vont nous dire comment elles s'engagent dans la vie de la cité, quels sont les freins à leur engagement, quelles sont leurs expériences aussi d'engagement et les fruits que cela porte, les difficultés éventuelles aussi, et leurs idées, leurs propositions pour avancer. Alors, en fait, pour construire cette émission, on a pris contact avec différents groupes et au final, beaucoup de personnes étaient prêtes à témoigner, à prendre la parole. Donc, toutes nos excuses à celles à qui finalement, et tout à l'heure, Marie-Alette nous parlait de Franck, je crois. Ben, on salue Franck et puis les autres qui auraient bien aimé prendre la parole, mais RCF ne va pas s'y arrêter en si bon chemin.
Exactement, et surtout, ben, vous avez la parole parce que le standard est ouvert pour réagir. Quelles sont vos expériences ou vos idées pour une meilleure participation de tous à la vie politique? Que vous ayez vécu la pauvreté ou que vous soyez témoin de belles expériences, venez participer au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et nous accueillons Chantal en ligne avec nous depuis Quimper. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Vous faites partie du groupe Place et Paroles des Pauvres du diocèse de Quimper. Vous êtes bénévole dans votre paroisse et au Secours catholique depuis longtemps. Aujourd'hui, vous vivez avec une petite retraite et vous avez connu diverses galères au cours de votre vie, notamment des moments de chômage, des petits boulots, une période d'invalidité. Vous m'avez dit que vous viviez à ce moment-là avec 670 euros et que donc vous étiez dans le rouge dès le 15 du mois. Je pense que c'est une expérience qui parle à pas mal de personnes. Alors, si vous aviez, Chantal, des responsables politiques des différents partis en lice pour les législatives, là devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez, qu'est-ce que vous leur demanderiez?
Je dirais que les personnes qui vivent et qui ont vécu la pauvreté, l'exclusion, l'isolement, ne trouvent pas leur place dans la société. Beaucoup de politiques décident de mettre en place des lois, des projets, sans rien leur demander. C'est comme s'ils savaient à notre place ce qui est bon pour nous. Ce dont nous avons besoin, sans rien connaître de notre vie, de nos espoirs, de nos difficultés au quotidien.
Et justement, comment vous imaginons qu'ils soient là, qu'ils écoutent, peut-être qu'il y en a, on ne sait jamais. Quels sont vos besoins?
Eh bien, je pense que financièrement, on ne peut pas se nourrir comme on veut, choisir notre alimentation, logement, c'est des logements sociaux qui sont mal isolés. Après, on ne peut pas se soigner non plus, ou certains n'ont pas de carte CMU ou carte mutuelle, ne peuvent pas prendre une mutuelle. Et puis, la santé, la nourriture, bien se nourrir, des produits sains, tout ça, nous privons de beaucoup de choses, quoi. Et donc, il est temps d'agir, quoi. Bon, après, le travail, nous qui ne conduisons pas ou qui avons le permis, mais qui nous ne pouvons pas s'acheter une voiture, les transports en commun sont pas toujours là non plus, ça dépend où on habite. Donc, soit on refuse un travail, soit on a des kilomètres à faire à pied, maintenant peut-être à vélo, ou alors on arrive trop tôt, des heures avant l'heure de commencer le travail. Enfin, vous voyez, ce que j'ai envie de dire en politique.
Et alors du coup, est-ce que pour vous, voter en ayant cette expérience-là depuis longtemps, dans la longue durée pour vous, est-ce que voter c'est un acte important? Est-ce que voter c'est un acte qui vous procure de l'espoir?
Alors, moi, je dis que pour moi, voter, c'est important. Après, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'avoir envie d'aller voter. On n'est pas écouté. Et puis, actuellement, ça fait vraiment peur, là, les élections qui arrivent là. Et comment le pays va être, nous les pauvres, comment on va vivre des situations, selon qui est élu, enfin voilà quoi, où, voilà, donc bien sûr, oui, je dis qu'il faut aller voter, moi je vote, mais c'est depuis des années déjà, et encore plus aujourd'hui, voilà, ça nous dégoûte tout ça, ouais, ça me dégoûte, ou ça me donne pas vraiment envie du tout d'aller voter, mais il faut.
Une dernière question. Quand on s'est appelé avant l'émission, vous m'avez dit, oui, il y a aujourd'hui un sentiment de peur qui se développe. Et si ça se développe, l'une des raisons, c'est que dans les médias, on ne dit pas ce qui se vit de beau. Alors, pour terminer, je voudrais que vous nous racontiez quelque chose de beau que vous vivez ou que vous avez vécu.
D'abord, je dirais que les belles choses, les belles initiatives, nous, les pauvres, on les vit grâce aux associations, aux groupes en église, comme notre groupe diocésain Place de Parole des Pauvres, le réseau Saint-Laurent, dans lequel je suis membre, étant donné que je suis bénévole au Secours catholique. Là, nous trouvons un vrai accueil, une écoute, un respect, tout ce qui donne un sens à la vie, à notre vie, le vivre ensemble. Et donc, quelque chose de beau pour moi, ben, je dirais, voilà, lors de notre dernière journée diocésaine, diaconie, tous les membres de mon groupe diocésain Place et Parole des Pauvres ont été organisateurs de cette journée. Nous avons tous été acteurs tout au long de la journée à des postes différents, choisis par chacun. Accueil du public, service café, animateurs de différents ateliers. Et cette journée, je veux le souligner et le dire, a bien démontré que nous, les pauvres, nous avons aussi des richesses, des talents à partager, à transmettre aux autres. Et c'est ensemble que nous devons décider et non que certains décident pour nous, les pauvres. Et ça s'adresse aussi et surtout aux politiques.
Merci beaucoup, Chantal, d'avoir témoigné ce matin. Daniel Massiel, peut-être juste en quelques mots, comment vous auriez envie d'accueillir et de peut-être prolonger cet appel de Chantal ? Ah, on a...
Daniel, ce que dit Chantal, c'est, elle dit la réalité. Oui,
oui.
Ce que dit Chantal, elle dit la réalité du quotidien qui est difficile.
Je crois, ouais, la liaison est vraiment pas bonne avec Daniel Massiel.
Oui, il y a un gros décalage.
Ouais. Ouais. On va poursuivre avec une autre personne qui nous a rejoint dans les studios, qui s'est assise à côté de... Ou Marie-Alette, vous vouliez réagir avant peut-être qu'on donne la parole à Kylian?
Oui, je trouve que Chantal, elle dit bien combien il faut du courage et de la force dans un quotidien qui est vraiment difficile. Et merci Chantal pour ce que vous nous avez dit là et l'importance d'aller voter. Alors, juste une anecdote courte. Au dernier conseil d'administration d'ATD Quart-Monde, où il y a 4 militants Quart-Monde, nous avons pris le temps de parler du vote et de quel vote et de des choix que nous devrons faire dimanche prochain et dans 15 jours. Et dire combien c'est très important, parce que les militants Quart-Monde en particulier nous ont dit combien ils avaient peur, je le dis clairement ici, de l'extrême droite. Et combien ils ne voulaient pas de l'extrême droite, parce qu'ils ont vu les votes des gens de l'extrême droite à l'Assemblée nationale et qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas voté pour l'augmentation, par exemple, des minima sociaux. Soyons très clairs. Franchement, ils ont extrêmement peur et ils ont dit combien ils mettaient beaucoup d'énergie pour aller rencontrer leurs amis et les motiver pour qu'ils aillent voter. Combien c'est absolument essentiel d'aller voter.
On accueille maintenant en studio, juste à côté de vous, Marie-Alette Grard, un militant d'ATD Quart-Monde. C'est vous, Kylian, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
Alors, vous avez 27 ans, vous habitez à Créteil, vous êtes animateur pour enfants et vous êtes donc militant ATD Quart-Monde depuis 2019, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'est grâce à un ancien formateur BAFA qui m'a fait connaître ATD Quart-Monde et j'ai pu quitter ATD Quart-Monde grâce à ce monsieur, il s'appelle Michel Bez, qui est en ce moment aux Philippines.
Ok, il ne nous entend pas alors peut-être. Alors aujourd'hui, je crois que vous ne vous définissez pas comme pauvre parce que vous pouvez subvenir à vos besoins, mais vous avez connu la pauvreté. Vous êtes engagé dans des collectifs qui ont pour but en particulier de valoriser les jeunes des banlieues. Je crois que vous êtes engagé dans plein d'endroits différents. Pourquoi vous vous engagez? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Parce que moi, je trouve que c'est important quand on est jeune déjà de s'engager, quand nous, on est jeune déjà de base. Et s'engager, c'est une fierté, c'est beaucoup de choses, c'est apporter des valeurs aussi et faire du bien autour de soi aussi. J'ai milité avec une association qui s'appelle l'AFEF que je souligne parce que j'ai fait pendant 6 mois avec eux. J'ai mobilisé des étudiants et je faisais des choses avec les familles, bien bien sûr, avec les enfants et les jeunes de quartiers un peu dans la pauvreté, mais au moins on est là pour agir aussi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, de mon côté, j'agis. Voilà.
Et au sein d'ATD Quart Monde, comment agissez-vous ?
Je suis dans un groupe jeune déjà de base à TD Quart Monde. On a fait, on a voyagé un peu. On a été en Belgique récemment, rencontré d'autres jeunes d'ATD Quart Monde de Belgique. C'était vraiment intéressant parce que moi je connaissais pas du tout la Belgique et je remercie les Belges de nous avoir reçus là-bas. À TD Quart Monde de Belgique, on fait des sorties, on fait des choses, voilà, on va un peu dans les, on fait des bibliothèques de rue aussi, il y a des bibliothèques de rue, on va dans les quartiers pour faire lire les enfants, je trouve que c'est important de faire lire aussi les enfants, voilà. Moi, j'agis pas en bibliothèque de rue, mais je trouve que ces choses-là, c'est important, et on oublie les enfants et les jeunes dans notre quartier, les quartiers, en fait. Mmh.
Et justement, sur les jeunes des quartiers, alors ceux qui sont jeunes mais qui au-delà de 18 ans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la participation politique de ces jeunes-là ?
Les jeunes, je ne vais pas parler à leur... J'ai 27 ans, mais les jeunes de 18 ans, 19 ans, ils s'intéressent pas forcément à la politique parce que forcément ils sont jeunes, ils comprennent pas tout. Mais il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique et je trouve que c'est important d'aller voter aussi parce que là on est dans un monde qui part en vrille et c'est important de, je dis aux jeunes d'aller voter parce que c'est notre voix à nous, les jeunes, d'aller voter et dire que non, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Voilà, moi je dis aux jeunes d'aller voter, c'est important d'aller voter parce que c'est un geste de citoyen et si on veut pas être voilà avec la droite et tout, il faut voter, c'est important.
Alors quand vous dites la droite, qu'est-ce que vous voulez dire ?
L'extrême droite, bien sûr, le Front Populaire, Marine Le Pen, tous ces gens-là nous critiquent à longueur de journée, les gens qui sont l'immigration aussi, c'est faut arrêter d'en parler en fait, il faut connaître les gens avant d'en parler. Quand j'entends dire Marine des choses comme l'immigration, je trouve que ces gens-là nous importent rien et c'est dommage parce que je trouve que les gens d'immigration, ils sont beaucoup critiqués, beaucoup de choses à dire et tout, et on leur donne pas la parole, et c'est dommage parce que ces gens-là, c'est des gens bien, et pas tous, voilà, il faut en parler, et c'est important de dire que cette politique-là, qu'on va subir, et c'est pour ça qu'il faut aller voter, il faut pas, on est dans l'extrême, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
Si, et voilà. Justement, qu'est-ce qui... alors là, en parlant des responsables politiques en général, pourquoi ils n'arrivent pas à se faire entendre, par exemple, dans les quartiers où vous vivez ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent dans leur manière de faire pour s'adresser, par exemple, aux jeunes des quartiers populaires ?
Venir dans les quartiers, premièrement, et parler avec les jeunes, faire des réunions avec les jeunes. Dans les médias aussi, il faut qu'on donne la parole aux jeunes. On n'en donne pas assez la parole. Et c'est ça qui est dommage. J'aimerais bien voir une émission politique avec les jeunes et les politiques et les jeunes. Faire une émission politique rien qu'aux jeunes et comme ça ils pourront poser leurs questions aux politiques et comme ça ils pourront réagir aussi les politiques avec une émission politiquement correct et voilà, et même avec la police en général aussi, il y a une fracture sociale dans notre société, faut pas se cacher, entre la police, les jeunes, la politique et tout, et c'est pour ça qu'on leur donne pas la parole et c'est pour ça qu'ils sont mal aussi, il faut comprendre leur colère parfois aussi.
Marie-Alain Grard, comment vous accueillez le témoignage de Kylian ?
Merci Kylian, d'abord. Et puis, vous savez, à TD Quart Monde, nous avons vraiment à cœur de mettre ensemble des jeunes de différents milieux. Des jeunes qui ont pu faire des études, d'autres qui n'ont pas pu faire des études. Et ça, nous pensons que c'est une vraie richesse pour eux et pour notre société. Et d'ailleurs, ce week-end, nous organisons un rassemblement de jeunes de tous milieux qui se retrouvent, imaginez, pour travailler ensemble pour parler de la maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire de la manière dont on n'est pas reçu, par exemple, dans les services publics, de la manière dont la société vous rejette et quelles sont les propositions qu'ils veulent faire dans ce domaine. Donc les jeunes à ATD Quart-Monde, ils ont plaisir à se rencontrer, à prendre le temps de se connaître en venant d'horizons très divers. Des gens qui font des études, des gens qui n'en ont pas fait, eh bien c'est formidable, nous pouvons faire des choses ensemble.
Merci beaucoup Kylian pour votre témoignage. Si vous avez le temps.
Juste une petite, si je peux prendre une petite seconde, je fais un événement dans ma ville à Créteil, je cherche des bénévoles, l'événement s'appelle Créteil a un incroyable talent, c'est pour mettre les talents en avant de la ville de Créteil, voilà, je cherche des bénévoles et tout, et ça sera peut-être en mois d'octobre, j'ai déjà une salle normalement, voilà, je voulais juste en parler et dire que il y a des jeunes qui agissent aussi en faisant du lien social, et s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir m'aider pour cet événement-là, Créteil a un incroyable talent, je suis preneur.
Et ce moment-là, ils nous écrivent à direct@rcf.fr, on transmettra à Kylian. Et vous pouvez rester avec nous si vous avez le temps, et on va accueillir beaucoup de monde, vous pourrez reprendre la parole en nous faisant un petit signe de la main.
Et je rappelle que vous avez la parole d'ailleurs pour réagir au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On a justement Florence qui patiente depuis déjà de nombreuses minutes. Bonjour Florence.
Oui, bonjour à tous. Et voilà ma venue. Je vous écoute depuis 9h. Je viens vous dire merci à vous tous, à TD Quart-Monde, les personnes SDF qui s'occupent des SDF, les gens de grande pauvreté. Voilà, alors moi je suis pas trop dans cela, mais j'ai connu quand je suis devenue veuve, j'étais sous le seuil de pauvreté. Quand je vivais avec mon mari et mes enfants, j'étais sous la loi de... Je vivais dans un appartement de la loi 1948. Nous n'avions pas tellement de chauffage, pas tellement d'eau chaude non plus. Il n'y avait que la chambre des enfants et la salle de séjour qui étaient chauffées. Mais voilà mon message. Dans les rues... je voudrais vous exposer deux choses. Dans les rues, surtout arrêtons-nous, nous personnes valides, quand il y a des personnes de grande pauvreté sur les trottoirs, dirais-je des clochards, des SDF, prenons le temps de leur parler, écoutons-les surtout, et parlons-leur de Dieu et apportons dans le cœur de ces personnes Dieu, justement. Et moi, quand j'étais valide, je prenais vraiment le temps. D'ailleurs, ce qui tue la population actuellement, c'est que
Florence,
monde est pressé.
C'est un très beau message de dire « arrêtez-vous ». C'est un beau message de dire « arrêtez-vous ». Et merci beaucoup. Je vous arrête parce qu'on a un gros programme ce matin, mais merci beaucoup d'avoir vraiment pris le temps de témoigner. Non, je pense donc j'agis.
Oui, parce qu'il y a Brigitte qui nous attend. On devait l'appeler Brigitte. Alors, je pense qu'elle est avec nous en ligne. Bonjour à vous, Brigitte.
Bonjour, Anne.
Vous vivez à Lille, vous avez longtemps connu la galère. Aujourd'hui, vous accompagnez des personnes qui vivent en des situations de pauvreté, de précarité, de fragilité. Vous animez divers groupes qui réunissent les personnes qui connaissent ces situations. Et je crois comprendre que pour vous, il y a un mot-clé au cœur de ces groupes, c'est celui de dignité. Marie-Alain Grard en parlait tout à l'heure. La dignité des personnes en situation de pauvreté vous semble mise à mal dans la société ?
Oui, effectivement, en fin de compte, pour que ces personnes, même pour moi, retrouver une dignité, effectivement, il faut être un peu comme j'ai entendu depuis ce matin, parce que je suis en ligne aussi depuis ce matin, il faut en premier temps créer ce lien et aussi de pouvoir aussi d'entendre leurs besoins. En fin de compte, c'est plutôt leurs besoins, parce que souvent on est confronté, comme j'ai pu l'être, En fin de compte, quand il y a le système, comme je dis, le système social, en fin de compte, ils pensent tout de suite que c'est on a besoin de ça, et en fin de compte, on n'a pas en priorité, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc du coup, je sais qu'ils font leur travail, leur boulot, et du coup, ben forcément, ben quand on n'a pas ce besoin, ben on a toujours, on est toujours en attente de quelque chose, mais on avance quand même. Mais par contre, au niveau de la dignité, moi, ce que je peux dire, en fin de compte, avec mon expérience plus celle des personnes en situation de précarité, pauvreté, en fin de compte, moi, cette expérience, ce que je peux en témoigner, c'est que j'ai pu vivre un moment de, en fin de compte, de comment je veux dire, de personnes avec moi, donc c'était plutôt des mamans solo. On
ah oui, alors peut-être juste, je vous interromps deux secondes. Daniel Massienne tout à l'heure nous en parlait. Donc c'est à Lille une expérience où vraiment on est venu chercher la parole, l'expertise de ces mamans solo. Là, c'est ça.
Oui, c'est ça. En fin de compte, à ce moment, c'était en 2020 où il y avait la. À l'époque, la déléguée des droits des femmes, donc Madame Indati Simpara, qui avait fait appel à participation et fraternité pour justement pour permettre que des mamans seules avec des enfants qui puissent contribuer à un appel à projet. Donc du coup donc il y a eu un rendez-vous qui a été fait avec la stratégie de la lutte contre la pauvreté des Hauts-de-France avec monsieur Dumoulin.
Peut-être Brigitte, qu'est-ce que ça a permis en fait, ça quoi, le fait qu'on vienne vraiment chercher la parole et l'expertise de ces mamans solo?
Excuse-moi, Anne, tu peux me redire la question parce que j'ai pas très bien entendu.
Qu'est-ce que ça a permis, en fait, cette expérience-là?
Cette expérience-là, déjà, la première chose, ça a permis déjà, en fin de compte, d'avoir été écoutée par justement de la déléguée de Monsieur Dumoulin. On a été écoutés, entendus. Et ça a permis aussi d'être participative, d'être acteur avec cet appel à projet, donc d'être jury, justement, on était au jury pour contribuer à voir les différents dossiers, on va dire, de fiches, dossiers projets, pour que les différents projets de structures sociales aient des subventions. Et à partir de là, donc nous, on était là, on notait ces projets, et je me souviens, il y en avait 98 projets. Et du coup, à partir de là, donc on les notait, tout ça. Et après, au fur et à mesure du temps, et après, à un moment, on avait une rencontre avec les décideurs. Et à partir de là, en fin de compte, quand on avait noté un projet qui était très bas, donc il voulait savoir en fin de compte, et du coup nous on a pu argumenter ce projet en disant ben voilà, nous on l'a lu, on a bien lu, mais en fin de compte les mamans ils sont pas dans la participation, en fin de compte c'est juste un projet où là on un peu comme je dis souvent on fait pour les personnes mais pas avec.
Voilà. Donc ça permettait vraiment d'avoir votre expertise, l'expertise des mamans solo surtout, avec une acuité que n'auraient sans doute pas eu les seuls élus pour déterminer quel projet ils retenaient. On est obligé de passer à la suite, le temps passe très vite. Merci Brigitte de votre témoignage.
Merci beaucoup. Et on va accueillir maintenant trois membres de la fraternité Saint-Laurent. Si vous ne connaissez pas, c'est à Lourdes. Et d'ailleurs, on vous remercie au passage nos amis de Radio Présence à Lourdes qui permettent ce duplex.
Et je salue Sophie, Jean-Dominique et Anthony. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, votre fraternité est un groupe d'une vingtaine de membres qui vivent la galère et qui se retrouvent une fois par mois autour d'une journée de partage de la parole de Dieu, un repas partagé et un après-midi détente, jeu, sortie ou réflexion. Est-ce qu'on parle politique au sein de cette fraternité?
Pas spécialement.
C'est la politique, hein?
Pas spécialement.
Alors, et est-ce que vous avez le sentiment que vos vies et vos attentes aux uns et aux autres, à vous trois, mais vous êtes porteurs de plus large, est-ce que vos attentes, vos besoins, vos vies sont considérées, de votre point de vue, par les responsables politiques et les décideurs?
Bah avec du mal.
Ouais, moi j'ai un bon témoignage vis-à-vis de ça, parce que j'ai beaucoup et longtemps souffert. Pour ce, il faudra que je me présente et que je raconte un petit peu ma vie entre parenthèses, assez.
Oui, allez-y.
Assez simple. Donc voilà, je vais commencer à regarder. Écoutez, je m'appelle Anthony, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je vis dans un foyer d'hébergement du Secours catholique. Sans ça, je suis SDF. Pour résumer, alors j'ai été sans domicile et héroïnomane dès l'âge de 17 ans et j'ai arrêté il y a peu de temps. J'ai fait plusieurs fois de la prison dans ma vie. Dans mon enfance, bon, j'ai été placé en famille d'accueil et en foyer d'urgence. Donc moi, je me sens pas citoyen, je me sens utile pour personne. Je suis parfois triste d'être né dans ce pays. Je me sens plus personne, je me sens exclu, je suis vraiment pas comme les autres, je le ressens énormément. Je ne veux pas travailler, je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de choix politique aussi. Mais j'attends quand même des hommes politiques qu'ils fassent construire des structures en grand nombre pour héberger les jeunes de 18 à 25 ans. Car à cet âge-là, on est vulnérable. On a peur des structures où il y a des hommes qui ont depuis très longtemps consommé de la drogue, des choses comme ça. On a peur qu'ils nous agressent avec des seringues ou des couteaux, ou pire, qu'ils nous violent. De ce fait, on ne s'approche plus des structures qui sont comme ça et on ne se fait pas aider. Et quant aux autres structures, comme les foyers jeunes travailleurs, les missions locales, etc., elles sont toutes pleines. Il n'y a pas de place, quoi. Et c'est à cause de ça qu'on se met à voler, à vendre de la drogue, très souvent à consommer de la drogue, dès le plus jeune âge. Suite à ça, il y a le RSA. Il nous le donne qu'à partir de 25 ans. Mais de 18 à 25 ans, il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans de rue, 7 ans de vol, 7 ans de consommation de stupéfiants et d'alcool. À 25 ans, on reçoit le RSA, mais c'est inutile, car avec cette somme d'argent, il faut se loger, se nourrir, passer le permis de conduire. Mais on oublie le plus grave, on est sous addiction. Depuis tout ce temps, on est sous addiction tabac, alcool, drogue. Comment voulez-vous que le RSA nous aide si les centres de désintoxication mettent parfois plusieurs années à nous sortir de la drogue ? N'aurait-il pas été plus simple de nous donner le RSA à 18 ans ? Après, je ne pense pas qu'en votant pour quelconque politicien, cela va lutter contre la pauvreté. Parce que pour moi, ces personnes-là sont très instruites. Elles sont bien diplômées. De plus, ils sont informés, je veux dire, par des experts sur nos situations. Pour moi, chaque personne politique reçoit des tâches à exécuter et je pense qu'ils font leur travail, car en France, on ne manque de rien. Il y a encore du pétrole, des médicaments dans les pharmacies et de très bons soins dans les hôpitaux. Nous avons plein d'aides. Le RSA, l'APL, les allocations familiales, l'AAH. Je pense que leurs tâches sont bien remplies, mais que nous faisons tout simplement pas partie de leurs tâches. Voilà.
Merci beaucoup Anthony pour ce témoignage très éclairant, parce que c'est toute une vie. Enfin, Marielle Elgrard, là on prend conscience avec avec Anthony de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ces personnes, si on ne les écoute pas, eh ben on sait pas en fait.
C'est tout à fait ça.
Ah oui, c'est incroyable. Merci beaucoup Anthony, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce que il y a 1,5 million de jeunes de 18 à 25 ans dans notre pays qui n'ont rien, qui sont à la rue, qui sont d'hébergement en hébergement et qui sont dans la situation que vous venez de décrire. Mais moi, je crois dans le politique. Je crois dans la force de certains hommes et femmes politiques qui croient vraiment dans la dignité humaine et dans l'égale dignité humaine, qui croient que tout homme est vraiment capable et doit prendre une place dans la société. Donc je crois dans la capacité d'hommes et de femmes politiques de changer les choses dans notre pays et de faire que vraiment chacun puisse vivre dignement.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On a entendu Anthony, on entendra Jean-Dominique et Sophie également, toujours de la fraternité Saint-Laurent de Lourdes dans les studios de Radio Présence à Lourdes. Merci pour tous ces nombreux témoignages. Vous continuez de nous appeler, j'espère qu'on aura le temps de vous accueillir. N'hésitez pas à nous envoyer des mails d'ailleurs à l'adresse direct@rcf.fr. Ce sera peut-être un petit peu plus simple pour vous lire. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc j'agis, toujours avec Marie-Alette Grard d'AT Descartes-Monde, Daniel Massiel de l'association Participation et Fraternité. Et puis on écoute beaucoup de personnes pendant une heure ce matin, et notamment trois membres de la Fraternité Saint-Laurent de Lourdes, Anthony, Sophie et Jean-Dominique.
Oui, bah on peut peut-être maintenant, Sophie, vous donner la parole, un peu là, sur le même mode que Anthony. Vous, comment vous abordez, comment vous vivez cette période politique ? Est-ce que voter vous paraît important à la lumière de votre expérience de la pauvreté ?
Bah moi, je dirais que le pauvre, les pauvres se sentent exclus du pacte social, car ils sont considérés, à mon sens, comme invisibles par rapport aux autres. Moi, en ce qui me concerne, même malgré mon passé chaotique, je me sens incluse dans ce pacte social. Je désire être artisan de mon propre avenir. Et je me bats, je me donne les moyens pour avancer et je prends les décisions. J'ai pas peur du jugement, du rejet, du conflit, parce que je tiens fermement à mes droits, mes croyances. Mais au niveau du vote, j'y crois plus. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je demanderais aux politiques, c'est qu'ils fassent beaucoup de choses pour les pauvres. La lutte contre les inégalités sociales, l'engagement d'une politique d'une sortie de la pauvreté par l'inclusion et l'insertion et l'emploi. La lutte contre l'exclusion, la lutte contre l'impatience. Essayer de faire les premiers mètres d'eau gratuite. Prévenir la santé. Et tendre la main à ceux qui sont en situation de fragilité. Voilà,
au niveau c'est concret. Peut-être, je ne sais pas, Marie-Alette Grard, ce que dit Sophie, est-ce que ce sont des mesures qu'on retrouve dans les 16 mesures portées par, dont on a parlé tout à l'heure, auxquelles vous adhérez?
J'avais envie de cocher les cases, ouais. En disant, mais Sophie, c'est formidable, ce sont les mesures du pacte du pouvoir de vivre. Et sincèrement, il y a quand même déjà quelques lieux en France où ces mesures, certaines de ces mesures sont prises en compte. Les premiers mètres cubes d'eau gratuit, eh bien écoutez, moi j'habite dans la métropole de Lyon, et dans la métropole de Lyon, c'est le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment, il y a des choses qui existent déjà, mais vous avez tellement raison dans tout ce que vous proposez, Sophie, et je trouve que j'ai envie de vous dire, le vote, c'est la possibilité pour chaque citoyen, chaque citoyenne, de donner son avis. De dire, voilà, moi je participe à la société. Et vous faites pleinement partie de la société. Anthony, Jean-Dominique, Sophie, vous faites pleinement partie de la société et votre vote est absolument essentiel.
Sophie, vous disiez que maintenant vous vous sentez incluse dans la société. Vous êtes celle qui a relancé la Fraternité Saint-Laurent à Lourdes, qui était un peu en sommeil. Et avant, vous avez aussi été membre de la Fraternité Saint-Martin à Tours, où vous habitiez avant. Pourquoi vous avez mis de l'énergie à relancer cette fraternité à Lourdes ? Pourquoi ça vous paraissait important ?
Ah ben, la fraternité, c'est une famille. C'est une famille. On est comment ? Quand on est perdu, quand on est on a besoin d'une famille, c'est notre vie, c'est on se soutient, on s'aime, on ne juge pas l'autre et on essaye de faire le maximum, même si on ne peut pas faire grand chose, mais déjà le soutien moral et la parole de Dieu, c'est beaucoup.
Jean-Dominique, vous faites partie, vous êtes l'ancien des trois, vous faites partie de cette fraternité depuis sa création, c'était en 2013, c'est ça ?
Oui, avec Frédéric Larget qui a décédé.
Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cette fraternité ?
Bah, beaucoup de choses, parce que je suis très, très heureux d'être avec la fraternité Saint-Laurent de Lourdes, ça m'apporte beaucoup de joie.
Beaucoup de joie. Et alors vous, par rapport à votre vie citoyenne politique et puis au vote là pour ces élections, oui. Comment vous envisagez tout ça ? Est-ce que vous irez voter ? Est-ce que c'est important pour vous, la politique ?
De toute façon, moi j'irai voter avec du mal. Hein. Vous savez, je ne crois plus en rien. Voilà.
Vous croyez plus en rien sur, de la part des responsables politiques, vous voulez dire ?
Oui, à cause des ministres, à cause des députés. Ils n'ont pas fait grand-chose avec M. Emmanuel Macron, vous savez. En tant que pauvre, on restera toujours pauvre. Voilà.
Vous avez le sentiment que vous resterez toujours pauvre
Ah oui.
qu'est-ce que vous attendriez si vous aviez là devant vous un responsable politique où tout d'un coup vous avez l'impression qu'il est prêt à vous écouter et à faire concrètement des choses, qu'est-ce que vous lui demanderiez ?
Qu'il fasse beaucoup de choses pour les retraités, pour les personnes en invalidité, pour les chômeurs, qu'il puisse les aider à avoir une meilleure vie.
Bah, merci beaucoup à tous les trois, Sophie, Anthony et Jean-Dominique, d'être venus témoigner en duplex de Lourdes. Et merci aussi à Radio Présence à Lourdes qui a permis ce duplex.
Oui, exactement. Merci vraiment pour vos témoignages. On va continuer, on va pas perdre de temps, Anne, et on part à Nancy rejoindre Aquilina.
Bonjour Aquilina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 57 ans, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes retraitée, ancienne médiatrice du secteur social et militante à TD Quart Monde. Et je crois que vous constatez que dans votre entourage, un certain nombre de personnes s'apprêtent à voter Rassemblement National. Qu'est-ce qui les pousse à cela ?
Ce qui pousse les gens à voter Front National, c'est l'insécurité. Ils veulent un changement. Et c'est tout ce qu'ils entendent, c'est tout ce qu'ils entendent dans les médias, si vous voulez. Et c'est beaucoup le pouvoir d'achat. Ils veulent un changement, qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils votent.
Et quand vous êtes confronté à ce genre de discours, vous, qu'est-ce que ça vous fait et comment vous réagissez ? Est-ce que vous leur répondez quelque chose ?
Alors moi, je leur réponds parce que je réagis très mal. Parce que je suis d'origine portugaise, mais je suis française par mariage. Et si vous voulez, je ne peux pas entendre des choses comme ça. Parce que moi, mes parents, ils sont venus travailler en France, si vous voulez. Et puis, on ne peut pas entendre des choses. On ne peut pas entendre ça du Front National. Et il y a des choses qui disent. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont portugais. Eh ben, ils ont peur. Ils ont peur de repartir dans leur pays.
Ils ont peur d'être obligés de repartir dans leur pays ?
Ouais, oui. Donc, ça fait peur, vous voyez, toutes les annonces qu'ils font, ça fait peur aux gens.
Vous-même, vous êtes donc impliqué à TD Quart Monde et vous participez à l'expérimentation Territoire Zéro Non Recours. Alors, est-ce que cet engagement-là, pour vous, c'est un engagement politique ?
Alors, cet engagement-là, c'est un engagement politique. C'est pour nous, à TD Quart Monde, moi pour à TD Quart Monde, c'est pour aider les gens, si vous voulez, à avoir leurs droits. Pas avoir une aide, mais avoir leurs droits. Tout citoyen. On est là pour tout le monde et c'est pour les gens qui ne viennent pas demander les invisibles, comme on dit.
Qu'est-ce que vous faites comme différence ? Pourquoi vous soulignez la différence entre aide et droit ?
Parce qu'une aide, c'est une aide de temps en temps qu'on a besoin, mais les droits, c'est un droit. Le droit à RSA, le droit au logement, le droit à la santé. Vous voyez ?
Oui.
C'est un droit.
Très concrètement, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce projet Zéro Non-Recours, vous ?
Alors nous, si vous voulez, on travaille avec les travailleurs sociaux et on fait des croisements des savoirs et des universités populaires. Donc on échange, si vous voulez. On échange avec les travailleurs sociaux, avec le professionnel dans le monde social et on leur dit nos expériences de vie.
Et on sent que pour vous, cette question de l'accès au droit, elle est vraiment au cœur de vos préoccupations, au cœur aussi de ce que devrait être la vie politique.
Oui, 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 parce que y a beaucoup de gens qui connaissent pas leurs droits. Et si vous voulez, où ils connaissent leurs droits, ils sont embêtés avec tous les papiers administratifs qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de services publics qui ont été enlevés. Il y a des choses qui ont été faites avec des tablettes numériques, que les gens, il faut qu'ils y aillent et qu'ils savent pas. Ils sont pas accompagnés. Et si vous voulez, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et si vous remplissez une case qu'il faut pas, eh ben, ça veut dire que vous vous êtes trompé, mais les organismes, ils voient pas ça. Ils voient qu'on est des fraudeurs et après, ça fait des dettes. Mmh. Et ça met les gens dans les difficultés.
Merci beaucoup, Aquilina, de votre témoignage. Marielle Gras, vraiment d'un mot, parce qu'on a encore plein de témoins
d'un
à
mot, D'abord, bonjour à Kilina, évidemment. Et puis, dire que depuis des années, il y a quand même du mépris, de la discrimination envers les plus pauvres de la part de certains hauts responsables politiques. Et voilà ce que ça produit. Voilà ce que ça produit. Ça produit que Jean-Dominique, que Sophie ne croient plus dans les politiques. Et ça produit que quand on n'a plus de services publics, plus d'accès aux services publics, eh bien ça, c'est grave. Ce que dit Aquilina, c'est que les gens, ils veulent un pouvoir d'achat. Et ils s'imaginent qu'avec le Rassemblement National, leur pouvoir d'achat va augmenter. Alors que les gens du Rassemblement National ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'augmentation du RSA. Ce que dit Aquilina, et je termine là, c'est que ce qu'elle vit avec Territoire Zéro Non-Recours à Nancy, c'est absolument formidable. Elle apprend à des professionnels comment aller à la rencontre des gens qui n'ont pas accès à leurs droits. C'est, je vous assure, c'est une expérimentation. À Nancy, la manière dont ils la vivent, c'est formidable.
10h40, ça passe très très vite, je pense. Donc j'agis, émission un peu spéciale de 2h ce matin avec Anne Kerléau. À quelques jours des élections législatives, on donne la voix aux personnes en situation de précarité et on continue, Anne.
Et on accueille Christelle. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors vous vivez à Lille, vous êtes maman célibataire de 3 enfants et grand-mère d'une petite fille qui a 2 mois. Vous habitez l'un des quartiers les plus pauvres de Lille, vous êtes très investie au centre social de votre quartier depuis 2007, à ATD Carmonde depuis 2012 et vous êtes aussi investie dans une association de parents d'élèves et membre du conseil d'administration d'une halte garderie. Ça fait beaucoup beaucoup d'engagement et puis en ce moment vous êtes en stage à Participation et Fraternité parce que vous aimeriez devenir animatrice sociale pour aider les autres, avez-vous dit en préparant l'émission. Alors, vous avez participé avec d'autres personnes en situation de précarité à l'élaboration du plan lillois de lutte contre l'exclusion dont on parlait tout à l'heure. Comment vous avez été sollicité?
Moi, c'est l'animatrice du centre social qui m'en a parlé.
Et donc, vous avez répondu favorablement. Et alors, je crois que pour faire ce travail ensuite, vous avez créé un groupe, c'est ça?
Oui, oui, qui s'appelle La Cour est fraternelle.
Et donc, qu'a fait ce groupe?
Eh bien, on réfléchit, on a émis des idées, et maintenant, on est en train de mettre en action les idées qu'on a émises.
Alors justement, dans vos idées, dans vos propositions, qu'est-ce qu'il y avait de vraiment important pour vous?
Le territoire zéro non-recours, qui était très important. L'accès à un logement, aussi. Le pouvoir d'achat, qui était très important aussi.
Et donc dans les propositions, je crois que vous aboutissez à la création, qui va être effective en octobre, d'une maison des solidarités, qui va ouvrir en octobre. Alors, qu'est-ce que ça va être? Et puis, comment vous êtes arrivé à cette proposition-là, qui, je crois, venait vraiment de vous, de votre groupe?
Oui, on s'est aperçu que il fallait courir à droite ou à gauche et on voulait carrément tout centraliser les services sociaux sur un seul lieu pour ne pas se perdre.
Ah oui, parce et que donc, pour le logement, il fallait aller ici là, pour les transports ailleurs, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Et donc dans la suite, quel va être le rôle du groupe en fait de la Cour est fraternelle? Est-ce que vous allez participer à la mise en place de cette maison des solidarités?
Ah mais tout à fait, on est partenaire de la mairie pour mettre en place cette maison des solidarités.
Alors pour vous, cette expérience, Christelle, qu'a-t-elle changé dans votre vie à vous de vivre ça, ce groupe, et puis de pouvoir être associée aux décisions pour la vie de votre quartier? Ça a provoqué quoi dans votre vie?
Déjà les gens me regardent différemment. Quand je dis que je fais partie de la Cour est fraternelle, on nous reconnaît.
Et ça change quoi?
Ça porte un autre regard. Par exemple, quand j'allais voir l'assistante sociale et que j'expliquais ma situation, elle me disait « Oui, il y a des choses qu'on peut voir plus tard. » Maintenant, quand elle sait que je suis là et que je fais partie de la Cour est fraternelle, elle prend plus de temps avec moi.
Ouais, donc c'est comme si vous existiez plus, quoi, tout d'un coup.
Oui, oui.
Merci beaucoup de votre témoignage. On aurait envie de vous poser plein d'autres questions, mais il y a d'autres personnes qui attendent. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette expérience-là. Daniel Massiel, je ne sais pas si la ligne fonctionne bien, mais vous connaissez bien cette expérience. Qu'est-ce que vous auriez envie du témoignage de Christelle?
En fait, on voit que quand on donne la parole aux personnes, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, sortent des idées. originales, adaptées et qui vont permettre vraiment de travailler en profondeur, que l'accueil des plus pauvres soit d'une qualité meilleure. Et c'est un peu tout ce que nous disait Christelle, quoi. Il faut vraiment faire confiance. Voilà.
Allez, 10h45, on continue cette émission spéciale pendant 2 heures.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Enfin, pendant 2 heures, mais il nous reste un quart d'heure, donc on va aller très très vite. Daniel, dans les Bouches-du-Rhône, nous a envoyé un message. Elle nous dit « Je suis devenu pauvre dans la pauvreté ». On entend SDF, mais il y a des degrés de la pauvreté. Pour faire une démarche dans les associations, on nous pose des questions débiles, je cite, avec un temps d'attente invraisemblable. Pour nous dire qu'on ne rentre pas dans les cases, on nous prend de haut par des gens qui n'ont rien vécu de tel. Voilà, un petit témoignage de Daniel.
Bon, on aurait envie de rebondir dessus, mais il y a Fabienne qui nous attend. Bonjour Fabienne.
Bonjour à tous.
Alors vous avez 69 ans, vous êtes engagée à TD Quart-Monde depuis plus de 10 ans et vous avez toute une expérience. Vous avez siégé au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et puis vous avez participé à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Vous avez toujours été engagée. Avant un TD, vous étiez à la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que vous vous engagez depuis toujours pour vous? C'est quelque chose de nécessaire?
Oui, parce que c'est vraiment une richesse de pouvoir partager, d'avoir des témoignages d'autres personnes. Et je suis plutôt quelqu'un qui va chercher à la source plutôt que d'aller chercher sur Internet ou dans des revues locales. Voilà.
Et alors,
j'aime le témoignage direct.
Oui. À TD Quart-Monde, en quoi consiste votre engagement?
Alors, mon engagement, il est assez varié, parce qu'à une époque, j'avais un groupe sur Arras que j'ai pas pu continuer pour des raisons de santé. Et maintenant, je suis plus sur... j'ai été pendant pas mal de temps au niveau de l'Europe. Je suis allée sur Bruxelles, au Conseil de l'Europe, donc pour travailler justement par rapport à ce que disait ce matin, je ne sais plus qui, sur le revenu pour les 18-25 ans.
Ok, c'était Kylian qui disait ça.
Voilà.
Alors, peut-être, parce qu'il faut qu'on avance, vous avez une expérience tellement riche et vaste qu'on pourrait faire l'heure avec vous, mais je voudrais qu'on parle de votre expérience de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette convention?
Ben, tout bêtement, parce que c'est des gens qui sont choisis sur des listes téléphoniques. Et en fait, il y a quand même c'était quand même un peu par rapport à, bon, il y avait des gens qui étaient cultivés, il y avait des gens qui étaient des professionnels, mais en fait, quand on arrive là-bas, personne ne sait qui fait quoi. Donc, on se connaît que par le prénom, et c'est au bout des 4 mois qu'on arrive à se connaître. Et il y a quand même du mal à ce que des gens en précarité y aillent. Et résultat, bon, moi, j'ai été recrutée. Enfin, on m'a demandé si j'étais d'accord pour y aller, et j'ai sauté sur l'occasion, parce que le sujet m'intéresse déjà, et c'est pas souvent qu'on peut... avoir une parole aussi reconnue que par le CESE. Et il y avait un début, l'échange, les collectes d'informations. C'était très bien organisé, donc on n'était pas perdu. Et la finalité, puisqu'on a rendu le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie, Monsieur Macron à cette époque. Voilà.
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'apporter quelque chose de particulier que personne d'autre n'aurait pu apporter du fait de votre expérience de la pauvreté?
Bien sûr, parce que on travaillait en grand groupe et en plus petit groupe, et quand on avait des groupes de, on va dire, une douzaine de personnes à travailler sur une thématique particulière par rapport à la famille, très souvent, comme on était tous mélangés, il y a très souvent, par exemple, le fait de pouvoir aller se déplacer, par exemple, pour aller rendre visite à quelqu'un dans un dans des soins palliatifs ou ça, bon ben les pauvres peuvent pas tout le temps y aller.
Ouais.
Donc, par exemple, les problèmes de transport, les problèmes de d'insalubrité aussi dans les logements font que les gens très rarement arrivent à finir leur jour chez eux. Parce que c'est pas compatible avec les soins. Donc, il y a beaucoup de réflexions autour de tout ça. Et moi, ça... quand je voyais que c'était pas abordé, à ce moment-là, moi, j'intervenais, quoi. Mmh. Je disais, oui, si quelqu'un vit en caravane ou quoi, comment on fait? S'il a envie de vivre chez lui, chez lui.
Ça, c'est très concret. On aurait envie de passer plus de temps avec vous, mais si vous deviez faire le bilan de cette expérience, qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je dis que c'est une expérience vraiment à vivre, mais qu'avant ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'apprendre à parler, à écouter, et faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on entend. Mmh. Voilà. Au niveau des universités populaires, au niveau des rencontres qu'on peut avoir sur des thèmes particuliers.
Ouais. Vous étiez prête, voilà, quoi, à vivre cette expérience-là.
Voilà,
Juste une dernière question, Fabienne, vraiment avec une réponse courte, mais à la lumière de tous vos engagements, qu'est-ce que vous avez envie de demander aux responsables politiques, là, à quelques jours des élections?
Alors, leur demander... D'abord qu'ils arrêtent de faire des promesses qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir tenir. Puis d'avant de parler, de connaître et de rencontrer la population. Mmh. Parce que le quand des pauvres arrivent à prendre la parole, en général, elle est assez vite balayée parce que c'est des termes et des situations qui dérangent énormément. Et les gens n'ont pas systématiquement des réponses à tout. Voilà, donc il faut arrêter. Nous, on ne demande pas à être assistés. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir de quoi vivre dignement.
Merci beaucoup, Fabienne. Je crois que Marie-Hélène Grard, je ne sais pas s'il y a besoin de commenter la parole de Fabienne,
non,
qui est vraiment claire.
C'est formidable. Juste peut-être dire... Alors, merci Fabienne, et puis dire un mot à Daniel, parce que j'espère vraiment qu'elle va pouvoir rencontrer des gens qui vont l'écouter et avec lesquels elle va pouvoir discuter, dialoguer et être reconnue.
Allez, 10h53, on arrive au bout de ce long chemin de 2 heures. On reste dans les Hauts-de-France, Anne, et on va à Amiens rejoindre Diane.
Bonjour Diane.
Bonjour.
Vous êtes maman célibataire, sans emploi, avec 2 enfants, originaire d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes arrivée en France en 2017 après être passée par l'Italie. Vous êtes en attente de papiers. Donc, vous, n'ayant pas la nationalité française, vous ne voterez pas aux législatives, c'est pas possible. Est-ce que malgré tout, vous vous intéressez à ces élections? Est-ce que vous vous sentez concernée?
Je dirais oui. Merci déjà pour l'intérêt. Et je dirais oui, je suis également impliquée indirectement parce que déjà mes enfants, ils sont scolarisés ici depuis plus de 5 ans, donc ils ont une vie pratiquement française. Et derrière, c'est que dans tout le programme que je regarde, quand je peux, c'est qu'on ne pense pas à la jeunesse, c'est-à-dire que le futur de la France. C'est vrai que la France est un pays très métissé, je dirais ça comme ça, et on n'y pense pas, on est toujours dans le préjugé, la psychose. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, j'ai ma voisine et des voisins qui me disent, écoutez, j'espère que ça ira pour vous, parce que si le RN passe, ça ne sera pas pareil. Donc derrière, on a déjà cette mentalité-là figée qui dit, le RN sera l'âme destructrice des personnes étrangères, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont nées sur le territoire français, qui sont vraiment impliquées dans la culture et la vie sociale française, qui, qui derrière pour nos enfants qui ne complètement, je dirais pas déracinés, parce que nous les parents, on essaie de leur apporter le plus de notre culture, parce que l'origine est toujours importante dans une famille, quelle que soit la provenance. Donc moi je pense que la jeunesse aussi, c'est ce qui me fait le plus peur par rapport à tout ça. Et quand on regarde un peu les, enfin quand je regarde un peu les programmes de ce qui est dit, c'est toujours lié à la personne étrangère ou à la petite classe. Donc c'est vraiment, il n'y a rien de qui dit qu'on va relever un peu toutes ces personnes-là qui contribuent à l'avancement de la société, parce que les petites mains, moi par exemple, ne pouvant pas trouver du travail pour l'instant, il m'arrive d'aider les gens de manière gratuite à faire du ménage, à participer à des activités bénévoles. Et moi, je me sens plus ou moins impliquée comme citoyen, indirectement, tout en sachant que demain, je l'espère, sera meilleur pour moi, mais déjà un grand pas pour mes enfants, et de ne pas leur dire qu'attention, en fait, derrière, n'espérez pas avoir un avenir meilleur dans ce pays.
On entend dans votre propos, Diane, que vous avez le sentiment de partager une condition avec pas seulement des personnes étrangères comme vous, mais aussi des personnes qui simplement sont pauvres. Vous avez employé le terme « petite classe ».
Oui, effectivement, parce que dans les activités que je fais, à bénévole toujours, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont des mères isolées, des personnes qui s'occupent de leurs parents qui sont malades et qui n'ont pas généralement suffisamment d'économies et ne sont pas suffisamment accompagnées sur le plan social, parce qu'on a comme l'impression qu'ils demandent des conditions qui sont souvent improbables pour eux. Et il y en a pour certains qui n'ont pas de base informatique, qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui rentrent dans des administrations et qui ressortent de là découragés, qui ne veulent plus rien faire. Bah, en fait, s'il n'y avait pas les associations qui ne filtrent pas en fait toutes ces personnes-là, parce qu'on n'a pas seulement les petites mains, je parle de dames de ménage, des vigiles, d'aide à la personne, oui.
Ouais, je vais être obligée de vous interrompre parce que on arrive malheureusement à la fin de l'émission déjà. Merci, un immense merci pour votre témoignage. Melchior, il nous reste une minute, je pense.
On va donner
20 secondes à chacun de nos invités pour un mot de conclusion. Daniel Massiel.
Daniel Massiel.
On l'a perdu. Alors, Marie-Alette
Grard. On le remercie beaucoup. Marie-Alette Grard.
Merci, et je veux croire que notre pays n'est pas un pays du rejet de l'autre, de la haine, mais un pays où la fraternité est une véritable valeur.
Et Daniel Massiel, sachant que la connexion n'était pas bonne, m'a envoyé un message où il dit, il voudrait citer une phrase de Martin Luther King, nous avons le choix de vivre ensemble comme des frères ou de mourir tous comme des idiots.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Anne-Kerléo
merci
pour cette émission. Merci à Marie-Alette Grard, Daniel Massiel, Alexandre Poidatz, Chantal, Kylian, Brigitte, Sophie, Jean-Dominique, Anthony, Aquilina, Christelle, Fabienne et Diane.
Vous êtes sûr que vous avez oublié personne?
Ah non, j'ai tout noté.
Et les auditeurs. Et
bien sûr les auditeurs. Merci beaucoup pour vos nombreux appels. C'était une émission un peu particulière ce matin. Mais tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Et Anne, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la dernière... émission, je pense, donc j'agis avec vous, en tout cas pour cette saison. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve également pour une émission un peu spéciale en compagnie de Madeleine Vatel. On fera entendre la société civile chrétienne. Bonne journée à tous et à demain.